On a intitulé cette table ronde de Les mondes qu'on fabrique, écologie et création à l'heure des crises. On va essayer de parler peut-être, alors on a beaucoup parlé technique aujourd'hui, on va essayer de là, parler un petit peu plus imaginaire et puis de questions politiques et sociales aussi, un petit peu comment est-ce qu'on s'est mélangé un petit peu tout ça quand les choses s'imbriquent. On va essayer de rentrer un petit peu dans ces détails-là. Donc, pour évoquer le sujet, trois invités de prestige m'accompagnent. D'abord, Barbara Nicoloso. Je les laisserai se présenter un petit peu plus en détail aussi, mais donc qui est directrice de Virage Énergie et qui est aussi enseignante à Sciences Po Lille. À ma droite, encore Martin Balex, qui est game designer et producteur et membre du bureau de Game Impact, dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Et puis Hélène Sélier, docteur en littérature comparée et narrative designer. Et à terre, nous aussi. Voilà, donc peut-être dans un premier temps, je peux vous laisser dire un mot sur votre parcours, votre rapport aussi à cette question justement de l'écologie, de l'imaginaire, voilà, comment vous vous situez par rapport au sujet, par rapport à votre position située, justement, aussi, pour enchaîner un petit peu.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis en effet directrice d'une association qui s'appelle Virage Énergie, qui a pour objectif de se projeter dans un monde dans lequel on consommerait moins de ressources naturelles, et dans lequel on arriverait à la fois à répondre à l'urgence environnementale, mais aussi à l'urgence sociale. Donc nous, concrètement, notre travail au quotidien, c'est d'accompagner des communautés locales, d'accompagner aussi des agences d'État comme l'ADEME, dont on a déjà parlé, d'accompagner également des entreprises, des collectifs de citoyens, dans la mise en place d'actions de transition écologique et énergétique. Et on mène également beaucoup d'actions de recherche sur les questions de transition, c'est-à-dire que se projeter dans un monde dans lequel on consomme moins de ressources, ça nécessite de travailler avec des sociologues, avec des architectes, avec des designers, avec des économistes, et donc en tant qu'association, on fait aussi ce travail-là. Au-delà de ça, moi j'ai une formation en sciences politiques et en urbanisme, et la question des récits, elle est vraiment centrale en fait quand on va parler de politique publique. C'est très difficile de se projeter dans des mondes différents si on reste uniquement sur les discussions techniques. Donc voilà. Pour moi, les récits, les imaginaires, c'est vraiment des outils du quotidien qui sont ultra précieux pour essayer de penser le monde de demain.
Et bien, du coup, moi, c'est Martin. Et donc, je suis question organisateur en producteur, et surtout, donc, membre du bureau de l'Impact, je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Game Impact, juste rapidement pour ceux qui ne situent pas forcément, c'est une association donc dans le jeu vidéo qui réfléchit un peu aux enjeux socio-environnementaux du jeu vidéo, que ce soit au sein de l'industrie et sur aussi ce que renvoie le jeu vidéo au niveau public. Et donc nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est on organise des événements, donc ça peut être des tables rondes pour parler de différents sujets ou d'autres types d'événements, et on crée des guides donc sous différents formats, et on en a un justement qu'on a finalisé il n'y a pas trop longtemps, qui est un guide en gros pour proposer des conseils aux joueurs et joueuses afin de réduire son impact environnemental. Quand on joue, parce que l'utilisation des jeux vidéo par les joueurs et joueuses, c'est ça qui a le plus d'impact, parce que c'est eux qui sont plus nombreux par rapport à ceux qui créent. Voilà. Et du coup, les questions de les imaginaires dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup, c'est quelque chose qui est très bien. Voilà. Et si vous voulez, je pourrais distribuer des petits flyers à la fin de.
Moi, je fais la recherche-création généralement. Donc, j'ai un pied dans l'industrie du jeu vidéo, un pied à l'université. Quelquefois, je traîne avec les artistes et les designers. Voilà. On travail porte souvent sur les relations entre les hommes et les humaines, mais aussi les relations humain-machine. Et donc, du coup, l'écologie vient traverser comme ça dans le travail à la tangente.
Alors, tout au long de cette table ronde, justement, on va essayer de tenir une sorte de fil rouge, de s'interroger sur les imaginaires, et d'essayer de se demander comment est-ce que les imaginaires qu'on crée et qu'on consomme aussi vont impacter nos pratiques réelles, justement, face aux crises écologiques, notamment, mais pas que. Et donc, autrement dit, comme pratique de production de jeux vidéo, mais aussi pratique de consommation de jeux vidéo, et comment est-ce qu'on peut relier ça à vraiment des pratiques qui sont aussi ancrées dans le quotidien de chacune et de chacun. Ça, ce sera notre fil rouge. Mais on va commencer par une question un petit peu plus globale, sur la manière dont vous appréhendez chacun et chacune la question écologique dans vos activités respectives. On l'a vu tout au long de la journée, justement, hein, des outils comme Gyros ou des cas concrets comme Caravan Sandwich. Pour vous, est-ce, pour une première question introductive, on va dire, qu'est-ce que les mondes qu'on crée, les mondes que l'on consomme, disent aussi du monde que l'on habite?
Je peux commencer par citer une référence. En 2019, à l'NHM, écrit Playing Nature. Dedans, elle note en fait la pauvreté des imaginaires, notamment écologiques, et un anthropocentrisme assez fort. Et on en a un petit peu parlé tout au long de la journée, et je trouve ça intéressant aussi de citer une source qui a pu être dans ce sens.
Oui, peut-être pour compléter, moi je parlerai de prospective, puisque c'est ça que je connais dans mon travail, donc c'est comment on se projette dans le futur en partant des contraintes actuelles. Donc dans le cadre de mes activités professionnelles, c'est comment on imagine un monde à plus 4 degrés, dans lequel on a moins de ressources minérales, dans lequel on a moins de ressources hydriques, on a peut-être des problématiques aussi de production agricole, et en plus de ça, la question énergétique se pose. Et donc en prospective aujourd'hui, en environnemental, il y a pas mal de gens qui travaillent, des associations, mais je pense aussi voilà, des agences comme l'ADEME ou des entreprises comme RTE, qui est le réseau, qui est l'entreprise qui gère le réseau de distribution et de transport d'électricité. Donc on est vraiment sur des entités qui sont sur des sujets ultra techniques et qui très clairement ont besoin de savoir comment les Français vivront le 3 avril 2046 pour savoir aujourd'hui combien de milliards d'euros il faut engager pour notre réseau électrique, par exemple, tiède. Donc des choses qui sont très très pratico-pratiques, très techniques, hein, souvent avec beaucoup de tables de modélisation informatique, je ne rentre pas dans les détails, mais qui ne peuvent pas vivre si les récits ne les accompagnent pas. C'est-à-dire que pour savoir ce que vont consommer les Français le 3 avril 2046, il faut savoir aussi à quoi ressemble la société française à ce moment-là. Et à quoi ressemble la société française, ça veut forcément dire se projeter dans des récits, se projeter dans des imaginaires. Voilà. Est-ce qu'on est dans une société de pénurie? Est-ce qu'on est dans une société hyper technologique? Ou dans une société hyper low-tech? Et ça, c'est aujourd'hui un moyen de se projeter en fait, dans ce futur, c'est d'imaginer des chemins de transition écologique, mais pas que. Hein. La question sociale et politique, elle est ultra centrale. Hein. C'est pas du tout la même chose en 2046 de vivre dans un régime autoritaire d'extrême droite, d'être dans une société encore démocratique où la liberté de chacun, chacune, les droits humains sont respectés. Et donc c'est ça qui permet à la fois de se dire on veut ça dans le futur, qu'est-ce qui est désirable, collectivement vers quoi on veut tendre, et de revenir en arrière, hein, dans une approche qu'on appelle en prospective le backcasting, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place pour arriver à ce résultat-là. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et peut-être pour terminer, en fait, la prospective, elle dit plus sur nous aujourd'hui dans le présent, ce qu'on projette, vers quoi on veut aller, ce qu'on désire, que ce que sera vraiment le futur, sachant que le futur de demain, on construit aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'aborde le sujet.
Et du coup, juste pour ajouter une petite pierre à ce que tu viens de dire, Hélène, comme tu disais, je pense que les mondes que l'on crée, c'est on les crée en fait à partir de ce qu'on vit, à partir de ce qu'on connaît, ce qu'on notre culture, etc. Et du coup, en fait, ce qu'on va créer ensuite, ça permet à d'autres personnes de se projeter dedans. Et en fait, ça permet de transmettre des horizons, de transmettre des philosophies et des idées qu'on ne va pas forcément vraiment reproduire exactement ça, mais plutôt passer à être directrice de guide de vie, quoi, qui peut être très intéressant, qui peut nous aider en fait, à surmonter la crise écologique sociale qu'on vit actuellement.
Alors, je voudrais vous interroger aussi sur les grands archétypes de fiction écologique, en tout cas qui sont présentés massivement dans les fictions idéologiques, parce qu'on connaît très bien, nous, les mondes post-apocalyptiques, qui sont les fictions les plus dominantes, et qui sont bien sûr aussi héritées d'une histoire longue, hein, de fiction médiatique, du cinéma, de la littérature, ancrée en particulier en science-fiction. Mais on voit aussi de plus en plus de productions qui vont s'ancrer dans des futurs peut-être plus désirables, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme-là, qui se réclament d'un retour à la Terre, d'un retour à la nature. Et ce qu'on peut observer dans cette dichotomie-là, c'est que souvent ces productions plus optimistes, plus positives, émanent plutôt des champs périphériques, en tout cas considérés comme périphériques de productions plus indépendantes, là où le mainstream va plutôt s'ancrer justement dans des choses plus post-apocalyptiques. En tout cas, sur des mondes déjà effondrés, et en préparant cette table ronde, on parlait notamment de l'exode de Sérapé de 2077, qui nous plonge dans un futur en 2077, pour le coup, où les questions écologiques n'existent pas, où les catastrophes naturelles n'existent pas, et où il pleut dans la Night City, alors qu'à 30 mètres derrière, on est dans le désert, et ces questions-là ne sont pas abordées, en fait. C'est cette dichotomie-là qui n'est pas du tout questionnée, ne serait-ce que dans la fiction. Et donc, je voudrais vous demander, pour vous, qu'est-ce qui sort du lot dans ces productions-là? Qu'est-ce qui vous inspire le plus en tant que fiction justement désirable? Est-ce qu'il y a une direction dans laquelle il faudrait avancer plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que vous pensez qui ressort de ces fictions qui peuvent être intéressantes d'une part comme de l'autre?
Du coup, comme tu l'as dit, il y a déjà plein de choses qui existent. Il y a tout ce qui est post-apo, techno-série, etc., qui je pense, ne sont pas forcément très intéressants à développer parce que souvent, soit on voit comment on y arrive et ce n'est pas quelque chose qu'on veut, soit on a des solutions technologiques toutes faites et en fait, on ne sait pas du tout comment ça arrive, comment ça marche, etc., et ça n'a pas du tout réaliste. Et dans les jeux, il y a beaucoup l'archétype du. Des jeux où il faut juste exploiter tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire les ressources, que ce soit minérales ou autres, et la faune et la flore à fond, quoi. Et à côté de ça, il y a des jeux qu'on va présenter comme alternatifs qui peuvent être intéressants, qui sont des cozy games. Et je pense que dans les cozy games, il y a des fois quelque chose qu'on retrouve beaucoup, où on va nous donner une ambiance très cozy en nous disant, c'est sympa, il y a des fleurs partout et tout. Et en fait, quand on regarde un gameplay, c'est souvent une suite de tâches qu'il faut faire. Des fois, il faut aller vite, on va avoir des contraintes de temps, par exemple, qui mettent un peu la pression. Et bien, surtout, il y aura beaucoup d'optimisation. Si je prends par exemple l'exemple de Stardew Valley, il y a beaucoup l'idée, en fait, alors c'est très le pitch, c'est vraiment on arrête la ville, on retourne faire la ferme et tout. Et en fait, il y a vraiment l'idée d'amasser de l'argent pour optimiser sa ferme, pour aller plus vite et en fait, à la fin, pour faire plus d'argent. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer aussi dans le gameplay de nos jeux et dans les actions qu'on fait, en fait. Et là-dedans, je pense qu'il y a quelques jeux, moi, que j'aime bien, indépendants, qui arrivent justement dans leur rôle d'action à changer un peu ces jeux un petit peu contemplatifs, où justement l'idée, c'est plus d'essayer d'observer, de comprendre, d'essayer de développer des liens d'amitié, plus justement sur l'exploitation d'autres. Je pense notamment par exemple à Alba, Valley of Nature, que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc voilà, le but c'est de prendre en photo des animaux. Il y a une fable de Koji aussi derrière, etc. Et c'est des jeux comme Absolu Journey, qui ne sont pas forcément parfaits, hein, qui ont un peu de défauts sur d'autres aspects, mais au moins il y a ce côté, on contemple les choses, on essaie de vivre avec, plus que on se fait vraiment exploiter ou voilà.
Oui, je peux rebondir. C'est intéressant que tu prennes l'exemple d'Abzu, parce que quand j'ai fait mes petites recherches pour préparer la table ronde, j'ai lu un article de notamment Gabriel Trépanier-Jobin et puis ses co-autrices qui parlent d'Abzu et de la réception du jeu. Elles font une étude de réception du jeu en regardant est-ce que le message écologique est compris, repéré, et en fait elle montre que en fait le message est peu repéré, mais qu'une fois que les personnes l'ont repéré, il y a vraiment un déclic et les joueurs et joueuses essaient dans les commentaires de faire prendre conscience. Et on parlait tout à l'heure de planter des graines éveillées à la conscience. Et en fait, je pense que là, on voit un bel effet. Alors, on pourrait avoir une conclusion assez négative en disant on a tout ça pour trois personnes. Mais en fait, trois personnes plus trois personnes, l'effet boule de neige peut être là. Et puis, si je peux mobiliser la parole encore un peu, je vais en profiter pour citer aussi des petits jeux qui, comme ça, comme ceux que tu as mentionnés, décalent un peu la pensée. Je pense que déjà, ce décalage, en fait, il est intéressant tu parlais d'imaginaire dominant, de justement que le futur qui soit envisagé soit celui qui arrive ou celui qui n'arrive pas, celui qui est souhaitable ou celui qui n'est pas souhaitable, mais d'avoir d'autres imaginaires juste pour penser autrement. Et je pensais à Waste Eater, qui est un petit jeu très court qu'on peut trouver sur itch.io, qui représente le monde après une catastrophe écologique et puis un humain qui s'est transformé pour manger les déchets. Le monde a été sauvé. En fait, c'est puisque le monde a été sauvé, il n'y a plus de déchets à manger. Donc, comment est-ce qu'on fait pour survivre maintenant que le monde est sauvé, mais que nous, je ne stoppe pas le jeu, il fait jusqu'à 17 minutes. Donc, vous pouvez y jouer. Il est gratuit. Et puis, je voulais aussi mettre en lumière le travail de Carastone, qui notamment fait un jeu qui s'appelle Ritual of the Moon. Et apparemment, on parlait des jeux qui ne parlaient pas du tout d'écologie à première vue. Et en fait, c'est aussi un jeu qui apparemment ne parle pas d'écologie. Mais sur 28 jours, en fait, elle nous fait, pendant 5 minutes, réfléchir émotionnellement sur qu'est-ce que c'est que la crise, parce qu'elle va arriver dans 28 jours. Et comment est-ce qu'on essaie de l'empêcher ou de ne pas l'empêcher. Mais en fait, ce n'est pas l'écologie en elle-même. Qui est le sujet, c'est qu'est-ce que nous, ça nous fait vivre de passer par le sentiment. Et du coup, je trouve que c'est des exemples intéressants pour revenir sur ce que tu dis.
Peut-être de rajouter le fait que projeter des futurs, en tout cas des scénarios ou des paysages du plausible, ça pourrait être intéressant en fait d'avoir une réflexion, alors je ne sais pas si ça existe, hein, de jeux qui soient co-élaborés avec par exemple des scientifiques du GIEC qui projettent en fait le monde tel qu'il pourrait être si on ne fait pas drastiquement baisser nos émissions de gaz à effet de serre, pour sortir d'une œuvre qui soit uniquement de la fiction en fait, hein, du spéculatif, et de dire bah non, le jeu dans lequel vous allez jouer, le monde dans lequel vous allez entrer, c'est possiblement le monde dans lequel l'humanité risque de basculer dans les années qui viennent, qui pourrait avoir cet effet un peu électrochoc et également donner peut-être une compréhension beaucoup plus sensible de grands rapports, hein, dont on nous parle tous les 7 ans, mais qui sont d'un point de vue cognitif difficile en fait à comprendre, et c'est difficile de se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc, peut-être une piste à explorer dans un travail plus proche entre scientifiques et concepteurs de jeux vidéo.
Alors justement, comment est-ce qu'on pourrait participer à traduire ces visions, à la fois des visions du jeu vidéo dans le réel et du potentiel futur dans le jeu vidéo, parce que là on parle de visions qui oscillent entre un post-capitalisme vert, du techno-optimisme, du retour à la Terre, du solarpunk, du cyberpunk. Qui nous promettent vraiment des futurs radicalement différents, mais qui posent vraiment la question de la dimension politique de ces imaginaires. Politique dans le sens bien commun et mise en action, et action dans le sens concret des citoyens et des citoyennes. Et puis pour rebondir aussi sur des questionnements qu'on a pu avoir un peu plus tôt, est-ce que c'est le rôle même du jeu vidéo en soi de nous faire réfléchir, considérer que le jeu vidéo peut s'amuser tout simplement. Et voilà. Sur toutes ces questions, peut-être, Barbara, tu peux peut-être nous parler justement de questions prospectives et de pouvoir public là-dessus. Parce que les collaborations scientifiques sur le jeu vidéo, il y en a quelques-unes, plutôt dans des domaines de sciences dures, il me semble, comme tout ce qui est consultant, etc. Sur la place des pouvoirs publics, sur la perspective de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que des élus locaux et même nationaux, leur parler de chiffres, leur parler de courbes, c'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, ça n'embarque pas, ça les fait pas bouger. Et c'est pour ça que l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, travaille plus en plus sur ces questions de récits et d'imaginaire. Hein. On travaille aussi là-dessus avec eux, d'essayer de projeter d'autres récits. Hein, que ceux qui nous sont proposés, donc à la fois soit très effondristes, catastrophistes, de l'autre très technophiles, hein, avec aussi un certain nombre de nouveaux récits de néocolonialisme, extractivisme, qui sont beaucoup mobilisés depuis quelques années par un certain nombre de grandes figures de la tech et de la politique américaine, hein, et qui viennent aussi infuser en Europe, et puis à l'inverse, des visions un peu caricaturales, hein, les écolos bobos zadistes en sarouel qui font des bolasses en mangeant du quinoa, pour en dire un peu vite. Et le monde, en fait, est beaucoup plus complexe que ça, et très certainement que la société en 2050 ou en 2070, elle sera toujours aussi complexe que celle qu'on a aujourd'hui. Et l'enjeu dans la prospective, énergétique et environnementale, c'est pas juste de projeter des consommations de ressources, c'est aussi de projeter des modes de vie. À quoi ressemblera la société, à quoi ressembleront les systèmes politiques, les relations entre les gens. Et malheureusement, cette dimension, aujourd'hui, elle est encore assez peu traitée. Hein. Il y a une citation du militant écologiste brésilien Chico Mendes, que j'aime beaucoup, hein, qui dit que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et malheureusement, je trouve que souvent, dans les œuvres culturelles qui portent sur l'environnement, on reste sur l'environnement, l'écologie, c'est la biodiversité, les petites abeilles, les petites fleurs. Alors que non, en fait, on est sur un truc qui est ultra politique, parce que derrière l'écologie, c'est quel modèle de répartition des richesses, c'est à quoi ressemble notre monde, qu'est-ce qu'on mange, où on vit. Voilà, donc tout ça est posé. Aujourd'hui, donc, peut-être pour reboucler sur ce que je disais précédemment sur l'ADEME, en fait, c'est comment les acteurs qui travaillent sur les questions de transition, transition confondue, peuvent travailler avec les acteurs du monde de la culture. Et ça, aujourd'hui, c'est encore compliqué. Je vais peut-être choquer en disant ça, entre guillemets, hein, mais j'ai l'impression, en tout cas, dans le monde des ingénieurs, des sociologues, des économistes qui bossent sur les questions environnementales et notamment énergétiques, que le médium jeu vidéo n'est pas du tout pris au sérieux. Parce que c'est aussi une question de génération. Même si ce sont des milieux qui sont très masculins, moi, j'ai jamais croisé hein, dans les colloques sur ces questions-là des créateurs de jeux. Très très rarement, hein, des collectivités locales ou des agences d'État vont parler du médium jeu vidéo comme pouvant être intéressant pour sensibiliser et pour mettre en situation. Et c'est là où je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, c'est-à-dire que notamment pour des élus hein, qui ont quand même la charge de gérer le bien commun, de gérer des ressources, avoir des simulateurs, par exemple, de gestion de pénurie, des simulateurs d'organisation de sociétés en cas de crise, ça pourrait peut-être les aider à se préparer quand on a par exemple une crise sanitaire qui apparaît ou un choc énergétique comme on est en train de le connaître. Et donc peut-être de prendre le jeu vidéo comme un moyen de formation, de sensibilisation, ça pourrait être intéressant. Et c'est peut-être quelque chose aussi à faire et provoquer cette rencontre aussi entre le monde des créateurs de jeux vidéo et ce monde de la décision publique qui, hors milieu culturel, je pense, est très très éloigné et ne perçoit pas toute la richesse qu'il y aurait à travailler ensemble.
Ouais, je ne sais pas si c'est une longue aventure, mais je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, donc je pense que...
c'est tout le principe de l'existence même d'ICAR, justement, et qui nous a rassemblés aujourd'hui et de rassembler justement autour de la table. En soi, des connexions interpersonnelles peuvent se faire entre développeurs et entre chercheuses et développeuses, bien sûr, ça peut se faire. Mais on voit bien que ça ne se fait pas aussi pour des questions de moyens, tout simplement. Des questions d'emploi du temps, bien sûr, ça se dépasse toujours. Mais vraiment sur des questions de on est tellement tous pris dans nos urgences. On n'arrive pas à se rencontrer, en fait. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, justement, avec quelqu'un, de forcer, en fait, de provoquer cette rencontre, de dire aux gens, arrêtez-vous, venez. On essaie de prendre ce temps-là pour essayer de dialoguer ensemble. Et si des collaborations ressortent, tant mieux. Sinon, on a l'honneur d'avoir essayé. Mais oui, c'est clairement l'objectif de ces rencontres-là. Et je dirais même que je peux te relancer là-dessus, en fait, parce que toi, dans ton propre parcours, justement, qui est un petit peu à l'intersection entre tous ces mondes-là, comment est-ce que, à la fois en termes de recherche-création, en termes de recherche tout court et de narrative design, comment est-ce que toi tu abordes ces questions-là, en fait, comment est-ce que tu fais le lien entre tout ça dans ta pratique professionnelle, est-ce que tu arrives
En fait, tu en parlais à l'instant, pour moi c'est une série de rencontres avec des personnes, et en fait on parlait à l'instant de relations humaines au cœur de l'écologie, et si on pense l'écologie en dehors de juste, et c'est déjà énorme, mais les ressources matérielles, mais aussi en prenant, si j'utilise le langage néolibéral, mais en prenant les ressources humaines, c'est vraiment une série de rencontres avec des personnes, de voir qu'on veut travailler dans la même direction, mais qu'on n'a pas tout à fait le même langage et comment faire ça. Après, la question, et c'est celle qui revient plus maintenant, c'est quand on essaie de faire quelque chose comme ça, forcément, les projets montent en complexité. C'est-à-dire que c'est des projets qui vont mêler des langages très différents. Et donc, du coup, en fait, pour être financé, il va falloir convaincre des personnes qui ont l'habitude d'un certain type de langage. Si vous voulez, j'ai une petite anecdote sur le sujet. On a parlé ce matin de jeux qui n'ont pas été tout à fait financés, qui sont finis, voilà. Moi, j'aimerais bien vous parler d'un jeu qui n'a pas reçu de financement. Du CNC. Je travaillais chez The Sick Crew, le studio au départ faisait des jeux plutôt destinés à des entreprises, et puis à un moment on a fait un virage. On a décidé de faire notre premier jeu pour le grand public en essayant d'insuffler les valeurs de diversité. Et notamment on a travaillé, le projet s'appelait Robot Arm Theater. Et l'idée, c'était d'imaginer ce que serait un monde futur où il y aurait des intelligences artificielles qui passeraient par des objets délaissés, donc des grippins, etc. Et tout l'enjeu de la réflexion, c'était de ne pas refaire un autre anthropocentrisme. Et donc, comment est-ce qu'on crée une relation entre le joueur ou la joueuse, qui est profondément humain et humaine, face à des entités qui sont complètement autres. Donc, on s'était posé cette question dans le gameplay, dans la narration, dans l'esthétisme, pour reprendre une catégorie tout à l'heure. En allant chercher vraiment des sources très diverses, et on a proposé ce dossier-là au CNC. Bon, j'avoue, j'en ai rédigé une bonne partie. Mais ça a donné un projet très complexe, en fait trop complexe. Et ce trop complexe-là fait que le projet n'a pas été financé parce que en fait, c'était trop ambitieux pour un premier jeu grand public. Donc en fait, à mon sens, c'est une difficulté majeure comme ça. Une fois qu'on a franchi le cap de « ok, on parle avec des disciplines et des points de vue différents », une fois qu'on arrive à s'entendre, c'est comment on se fait comprendre aux autres qui ont un vrai point de tension.
Et justement sur cette question, et en même temps on l'a pas mal évoqué, mais de se faire comprendre aussi dans nos intentions, peut-être dans la fiction, hein, pas seulement dans les jeux vidéo, mais même dans les discours, hein, on a cette question de vouloir faire écolo, et puis la question se pose de est-ce qu'on est dans le greenwashing, est-ce qu'on est dans une démarche vraiment sincère ou pas, voilà, où est-ce qu'on se situe peut-être un peu des deux d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on se prémunit justement de cette dichotomie, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit aussi en matière d'écologie des relations humaines aussi, comment est-ce qu'on imagine justement un propos qui soit juste et qui soit juste du début à la fin aussi, il ne s'agit pas juste de dire que des outils vont être utiles, mais aussi de remonter peut-être plus loin aussi sur des questions d'exploitation humaine, justement. On a beaucoup parlé de certaines technologies depuis ce matin. On a très peu évoqué le stade d'avant de comment est-ce qu'on produit aussi cette écologie, justement, en termes d'extraction minière, etc. en particulier par des personnes minorisées du sud global. Voilà, comment est-ce qu'on se prive de ça? Comment est-ce que vous, dans vos cercles respectifs, vous voyez ces questions d'équilibre entre le greenwashing, entre l'engagement, comment est-ce qu'on transforme cette parole aussi en action concrète?
Je pense qu'il y a. Je vois deux difficultés moi, dans ce que tu dis. Il y a le côté, donc, une fois qu'on est informé sur toutes les questions dont tu parles et qu'on veut sincèrement faire quelque chose, donc on a une idée, par exemple, d'œuvre qui serait super à créer, qui parlerait de sujets vraiment sincères, etc. Il y a déjà les financements qui vont être assez compliqués à trouver. D'une part parce qu'en fait c'est soit avec des aides publiques, soit en passant par des éditeurs privés ou des structures privées. Et dans les deux cas, il faut que les personnes qui vivent d'argent soient en phase avec les démarches sincères dans lesquelles on est. C'est-à-dire que les élus locaux, il faut qu'ils soient dans les mêmes idées politiques. Et pour les éditeurs, etc., ça peut être encore plus compliqué parce que le principe des éditeurs, c'est faire de l'argent, c'est les gens qui sont dans une logique de production, qui reste une logique productiviste, etc. Et quand on veut faire l'écologie et du social et qu'on commence à faire des choses vraiment sincères pour essayer de sortir la crise de la catastrophe qui arrive, on est obligé en fait, de sortir un peu de cette logique de production parce que c'est une solution, c'est la transformer d'une certaine façon. Et dans ce cas, on commence à être en rupture avec. Ce que ces mêmes acteurs veulent, et du coup, c'est bien compliqué de trouver des financements. Et l'autre chose qui est compliquée, c'est de trouver du public. Parce que si on présente une œuvre comme trop écologique, vraiment en disant, parle exclusivement de ça, etc., vu que le jeu vidéo, ça reste un média de divertissement avec les gens, je pense qu'il y a peu encore cette culture de je vais jouer à un jeu vidéo pour m'instruire, comme on peut faire avec un documentaire ou un film. Et je pense que c'est encore une barrière qui peut être assez compliquée. Mais à la limite, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard du rapport public. Voilà, je sais pas si.
Oui, peut-être pour compléter, plutôt de là où je me situe, dans une association environnementale, nous aujourd'hui on a intention sur plein de sujets. La sensibilisation, la formation, c'est très bien, mais c'est aussi le comment on passe à l'action. Qui aujourd'hui nous habite en fait. Alors moi j'en peux plus, il faut sensibiliser les enfants. Les enfants, ils seront au pouvoir au même dans 40 ans, donc le problème c'est pas les enfants, c'est les gens qui sont aujourd'hui en situation de direction, de communauté, de collectivité locale, de pays. Et c'est pas glorieux. Et en plus, nous, en tant qu'association environnementale, et quand je dis ça, je l'exprime aussi au nom d'assos qui sont dans des réseaux comme le réseau Action Climat, qui travaillent sur ces enjeux environnementaux, il y a la question de la cohérence. On est beaucoup, on se questionne beaucoup sur le numérique, sur l'IA. Il faut y aller, il ne faut pas y aller. Il y a une défense quand même d'une forme d'artisanat. Traverse très clairement aujourd'hui le monde des créateurs, mais aussi le monde des bureaux d'études, des personnes qui réfléchissent sur le monde de demain. Est-ce qu'on délègue tout ça à des intelligences artificielles? Est-ce qu'on perd la capacité d'écrire, de rédiger des dossiers? On rentre dans des trucs où on a des ministères qui écrivent des appels à projets avec une IA, et puis en face vous avez des structures qui répondent avec une IA. Enfin, à un moment donné, on perd en humanité, je pense, et on a un impact environnemental qui est colossal. Et nous, à Virage Énergie, ce qu'on fait, on essaie vraiment de plaider pour une prise de conscience de la matérialité dans le monde dans lequel on est, et notamment lié au numérique. On parle de dématérialisation, on parle de cloud, on parle de choses qui seraient magiques, qui n'auraient pas qui seraient pas tangibles en fait, d'un point de vue matériel. Et en fait, non, derrière, c'est des câbles, des data centers, c'est des minerais, c'est de l'eau, c'est des ressources. Et ça, malheureusement, on oublie trop souvent. Et donc voilà. Donc nous aussi, c'est ça qui nous pose question. Et puis enfin, c'est dans le monde dans lequel on est en train de basculer, de post-vérité, de remilitarisation, de prédation exacerbée sur sur les ressources, comment on tire notre épingle du jeu dans un contexte de backlash qui est quand même ultra fort et qui n'est pas du tout évident.
Peut-être que je peux rebondir sur ce que tu disais sur les relations, et puis on en a parlé aujourd'hui. En fait, une fois qu'on est dans la chaîne de production, dans le flux comme ça, des deadlines, des rendus, de toute façon, si on veut avoir ce financement-là, il faut rendre ce dossier à tel. Alors, en fait, on entre dans une logique de productivité. Et donc du coup, se crée en nous, se noue en nous une espèce de contradiction interne où on a ces valeurs qu'on veut porter avec certains projets, avec même la façon de l'organisation du travail qu'on pensait à la base, sur comme ça des valeurs de relations humaines. Et puis en fait, on est rattrapé presque par des logiques capitalistes de productivité, et cette tension-là, elle n'est pas facile à gérer, et je pense que c'est une des contraintes à prendre en compte.
Justement, sur la question des contraintes, on peut entendre justement que l'écologie peut être une contrainte à ajouter, mais on peut aussi très bien considérer que l'écologie est une forme de liberté de création, de nous apporte de nouveaux éléments à utiliser, d'autant plus dans le contexte national et international que vous avez rappelé, hein, avec les reculs du côté de l'administration états-unienne sur les questions écologiques et sociales, bien sûr, mais aussi sur les questions très concrètes, contemporaines, d'approvisionnement, pour l'énergie, en pétrole, et sur les questions de pénurie aussi. Est-ce que ça, c'est pas des choses qu'on voit dans le jeu vidéo, alors que ça pourrait éventuellement être des moteurs, justement? En préparant cette table ronde, on disait justement qu'on voit beaucoup de mondes effondrés ou de mondes reconstruits, et qu'on ne voit pas le moment de cette transition, le moment de l'effondrement, et qu'on pourrait peut-être plutôt essayer de le penser comme un moteur de création. Comment est-ce que vous voyez ça, donc, pour vous ? Plutôt contrainte ou bien ?
Moi, je dirais qu'il y a que cette contrainte marketing ou de financement, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, mais j'y vois vraiment une liberté créatrice, ne serait-ce que parce qu'en fait, ça nous oblige à lire de nouveaux textes, à rencontrer de nouvelles personnes, à décaler son regard, ne serait-ce que par rapport à nos propres habitudes de consommation. De produits culturels ou de consommation au quotidien, et puis ça remet en perspective ces petits gestes de la production du studio, de on est en train de produire un jeu qui parle d'écologie et de valeur humaine, et en même temps on se dit que ce serait bien d'acheter une nouvelle chaise parce que vraiment votre elle est cassée, comment est-ce qu'on fait. Et en fait, il y a une espèce de liberté dans ça, dans cette obligation de décaler notre regard, il me semble.
Dans l'idée de la contrainte imaginaire, il y a un jeu qui est intéressant et qu'on fait des fois avec l'impact, qui s'appelle Grow Again, où en gros le principe c'est un jeu de cartes où on va avoir par exemple une mécanique ou un racine, et il faut l'associer avec un principe social et écologique et essayer d'assembler les deux pour essayer d'imaginer quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas forcément facile de trouver une nouvelle idée, parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, on tourne quasiment toujours autour des mêmes choses. Parce que c'est très dur d'imaginer une mécanique ou quelque chose de nouveau qui ne s'en revient pas. Mais du coup, je pense que ça reste quelque chose de super intéressant, même si ça mène nulle part, en fait, même si à la fin, il n'y a pas de jeu qui sort ou pas. Juste le fait de se poser la question, de se dire comment est-ce que on peut faire, par exemple, un FPS, qui serait du sujet pacifique ou choses comme ça. Ce qui paraît assez contradictoire, je pense que même si on n'arrive pas juste au fait de se poser la question et d'essayer d'arriver à réfléchir dessus, ça peut juste être, ça peut déjà être super intéressant. Au-delà de la contrainte matérielle du coup, qui reste à se poser souvent, peut-être que je vais plus vous en parler pour ça.
Oui, enfin, très, très rapidement, de se dire aussi que dans le jeu vidéo, le joueur est acteur, et qu'il y a peu d'œuvres de culture où c'est le cas, en fait. Hein. Voilà, quand on lit un livre, on regarde un film, on se projette dans un monde, mais on est assez passif, finalement. Là où dans le jeu, on peut passer à l'action, on a un pouvoir décisionnel sur ce qu'un personnage va faire ou non. Et ça, je trouve que ça peut être un moteur super fort aussi pour prendre des décisions en matière d'écologie dans un monde un paysage qui est projeté de manière virtuelle et de venir questionner l'impact que ça peut avoir sur la réalité. Ça, je pense que c'est vraiment des forces du jeu vidéo. Et au-delà de ça, oui, enfin, on parlait hein, ce midi peut-être de l'angle mort aujourd'hui du secteur sur les risques de pénurie, notamment liés à de possibles crises géopolitiques qui pourraient arriver dans les mois et les années qui viennent, notamment entre la Chine et Taïwan, hein, une vulnérabilité extrême à cette île qui produit la plupart des microprocesseurs du monde, mais aussi l'impact du changement climatique en fait, sur l'ensemble des industries dans le monde, et en particulier sur l'industrie d'un certain nombre de composants hein, qui aujourd'hui sont indispensables au secteur du jeu vidéo, mais en fait au numérique hein, d'une manière générale. Alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais je crois que c'est Typhoon Haiyan en Thaïlande au début des années 2000, qui avait généré des inondations considérables en Thaïlande et avait notamment inondé les deux ou trois villes qui produisaient les disques durs. Qui sont en fait hein, les villes ultra spécialisées, comme vous avez en Chine les 2-3 villes qui font toutes les fermetures éclair du monde, là vous aviez les 2-3 villes qui faisaient des disques durs. Et donc cette question aussi hein, de la résilience d'une industrie à des chocs énergétiques, à des crises sanitaires, mais aussi en fait à ce qu'on va se prendre hein, dans la figure avec le changement climatique, ça m'interroge et c'est vrai que voilà. De se dire que le secteur ne se prépare pas forcément à ça, moi ça me surprend énormément parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de secteurs économiques où ils sont en permanence à anticiper ce qui peut arriver, essayer de trouver des moyens de substitution s'il y a une rupture dans la chaîne de valeur. Et là, il y a quand même une vulnérabilité matérielle du secteur du jeu vidéo qui est ultra, ultra importante et ça pourrait être aussi intéressant de voir comment ça pourrait être traité par un jeu vidéo justement. Cet aspect.
Est-ce que je peux me permettre de rebondir parce que tu parlais d'agentivité et c'est un des dadas, et en fait, je trouve ça hyper intéressant qu'effectivement, dans la culture ludique, il y ait cette culture de l'agentivité, de l'exoire ou à la joueuse, vous êtes le héros, vous êtes responsable des actions. Et en fait, justement, on sent que quelques jeux qui traitent d'écologie et qui en traitent bien le prennent à l'inverse, c'est-à-dire vont priver la gentilité des joueurs et des joueuses et donc créer des sentiments pas très agréables, donc du coup, mais plutôt du côté des jeux indépendants, mais plutôt du côté de la frustration, ou de je pensais que si je faisais ça, j'aurais un gros impact sur le monde. En fait, le monde continue à s'effondrer et voilà. Et Alain Dachin parle d'une espèce de catharsis, de voir le monde s'effondrer et justement de jouer avec ces questions d'agentivité, de privation d'agentivité, de d'autres relations au monde. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Donc ça, c'est le côté de Sénat qui ressort.
Non, bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour notre cycle de questions, puis essayer d'ouvrir la discussion à qui le veut.
Vous ne pouvez pas le palmer.
Sinon, je mentionne une étude qui parle de FF7. Faites gaffe, il y a la prof qui le sort. Sur la FF7, quand on interroge les joueurs et les joueuses, je ne sais plus qui a écrit cet article-là, je suis désolée, il faudrait que je regarde mes sources. En fait, les gens ont très peu été marqués par le message écologique du jeu. En fait, se souviennent surtout des relations entre les personnages et c'est ça qui les a marqués. Et en fait, le sous-texte écologique, en fait,
fait reste pas dans mes souvenirs et pas ce qui a marqué. J'ai trouvé ça intéressant comme information.
On n'a pas parlé justement un peu plus en détail de. Enfin, on a parlé de toute la journée des autres, de qui fait quoi, etc. Il y a Jérôme d'un côté, il y a Exposé, etc. Mais tu ne nous as pas parlé côté Game Impact de votre guide. Est-ce que tu peux nous en parler?
Donc le guide, ce que j'ai juste pas dit au début, c'est sûrement des gestes pour reproduire son impact environnemental dans l'utilisation du jeu. Il y a une toute petite partie à la fin qui est un peu sur les imaginaires et favoriser ce qu'on peut en tant que joueurs et joueurs, c'est d'acheter des jeux, on sait que c'est des studios qui sont bien faits et tout, mais ça reste quelque chose, un moyen d'action qui est assez limité parce que c'est très compliqué en fait de savoir dans quelle façon de production ça s'est fait, est-ce que c'était bien ou pas, est-ce que le studio en fait c'est un studio, oui, il vaut mieux donner de l'argent, non. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez compliquées, mais dans la vie de tous les jours, en général en tant que consommateur, en fait, on a très peu de levée d'action en réalité, parce qu'il faudrait avoir des masses d'informations qui sont très difficiles à obtenir. Mais du coup, à côté de ça, en gros le guide c'est donc il divise en trois parties. Globalement, avec une première partie qui parle en gros de la construction, la fabrication des équipements, parce que c'est ce qui consomme le plus, notamment en France, parce qu'on a une énergie assez carbonée, avec plein de choses qu'on peut faire, soit acheter en reconditionné, essayer de garder ces machines le plus longtemps possible, avec quelques conseils pour justement les maintenir en état. Et la deuxième partie, ça va être vraiment sur la surconsommation électrique, qui va être donc, savoir, voilà, on parlait un peu de, avec une trousse, par exemple, de comment les jeux, en gros, peuvent réduire leur consommation d'énergie, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour consommer moins en jouant au jeu. Et il y a une partie aussi, c'est sur le traitement des données, ça va être tout ce qui est un peu data center, comment on fait, par exemple, sur le. Il y a des notions sur le filaire, par exemple, en jouant filaire, ça consomme moins si on joue en Wi-Fi que si on joue en 4G. Et sauf que les ordres de grandeur, ça va être des. Alors je ne sais plus exactement c'est combien, mais c'est des genres divisés par 3 ou 4, ou des choses comme ça à chaque fois. Donc c'est quand même assez lent. Et d'autre part, il y a toute la question des vidéos sur Internet, parce que ça représente. Une énorme part de la consommation globale numérique. Et il y a une part qui est liée aux jeux vidéo avec les SP et tout. Et donc il y a aussi des conseils là-dessus sur par exemple juste des paramètres qu'on peut activer sur YouTube ou sur la plateforme pour limiter pour limiter la charge graphique quoi, et rester par exemple en 360p ou 720p selon le format qu'on regarde, selon ce qu'on regarde, et éviter d'avoir des choses qui sont suite en 80 ou en 4K, alors qu'en fait ça change quasiment. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Alors, j'ai plusieurs questions. pas trop pour rebondir directement là-dessus. En gros, il a été dit de possiblement faire des jeux vidéo comme des électrochocs pour faire prendre conscience les gens. Mais déjà, moi ça me pose la question, genre, est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que ça existe, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des films ou des documentaires, genre qu'est-ce que sera la planète en 2050, je ne sais pas quoi, tu vois, et en fait ça sert vaguement de trucs un peu éducatifs, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir des vagues souvenirs, d'avoir regardé ça étant gosse, genre à l'Unitech, tu vois, ça fait réfléchir, mais genre en même temps, l'impact de ça il est effectivement limité. Et effectivement, on ne peut pas se concentrer que sur la prise de conscience des gosses et genre en même temps d'agir pour quoi. Il a été dit aussi, comment travailler avec des sociologues et des ingés qui ne prennent pas le jeu vidéo au sérieux. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de ne pas prendre le jeu vidéo au sérieux en vrai? Parce que, il y a plein de raisons de ne pas prendre le jeu vidéo au sérieux, tout bien honnête. L'impact possible, véritable, de prise de conscience du jeu vidéo en lui-même, il n'est pas beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de raisons de penser que ce n'est pas plus exceptionnel qu'un autre truc, genre le cinéma, les livres, la BD, plein d'autres trucs. Et que, bah, effectivement, bah, ne serait-ce que, ok, il est super consommé et tout, mais genre, en fait, c'est beaucoup bah, des jeux sur téléphone et des triple A, quoi. Et si on fait un petit jeu indé, c'est pas parce qu'on fait un petit jeu indé que, du coup, soudainement, ça va être vachement plus médiatisé et consommé que les autres trucs, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de cet exceptionnalisme du jeu vidéo et se dire, quoi, est-ce que, pour l'instant, le jeu vidéo, enfin, à mon sens, il est pas à la hauteur, mais après, genre, peut-être que je suis biaisé de fou.
Alors moi c'est en partie des choses que j'ai pu dire, je peux peut-être pas te répondre directement, mais sur l'exceptionnalité du jeu vidéo, il y a une espèce de double paradoxe, double triple truc, je sais pas comprendre. Notamment sur les discours sur le jeu vidéo éducatif, par exemple, sur la portée éducative du jeu vidéo, les travaux sont plutôt pas d'accord pour dire qu'il y a une portée vraiment éducative. En fait, tout est question de la différence entre ce qu'on imagine qu'on va pouvoir faire avec un médium et comment la chose est vraiment reçue par les personnes. Et il faut prendre en compte ces deux parties-là, les effets des médias qu'on aimerait voir à venir et la réalité des choses. Et souvent, dans le débat public, on va avoir tout un tas de personnes qui vont défendre, et à raison, que le jeu vidéo ne rend pas violent. Et à ce moment-là, si le jeu vidéo ne peut pas rendre violent, on ne peut pas non plus apprendre quoi que ce soit aux gens si on part de ce principe-là. Donc on a cette espèce de double paradoxe, et aussi parce que le jeu vidéo est dans un régime d'exceptionnalité, parce qu'on a tellement dû, et je dis on en tant que joueur et joueuse, on a tellement dû se défendre en permanence, que le jeu vidéo soit un ramassis de conneries en permanence, qu'on essaye de trouver des choses positives, peut-être en allant au-delà des effets réels des choses. Puis il faut bien dire aussi, dans le traitement médiatique du jeu vidéo, là on est dans le néant absolu. Soit on en parle justement pour annoncer les chiffres incroyables d'Ubisoft ou la grève chez Ubisoft, mais au-delà de ça, à part un reportage sur M6 sur la BGW, on ne va pas avoir une grande couverture, comme ça pouvait pourtant être le cas dans les années 80-90, notamment sur Canal+, on pouvait allumer la télé et puis voir du jeu vidéo sur une chaîne pour la télévision. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est redevenu une niche, entre guillemets. Donc il y a toutes ces questions aussi d'exposition médiatique du jeu vidéo qui a complètement shifté vers le volet économique. Un très peu comme une culture, à part effectivement pour parler
d'exposition. Je vais poursuivre ce que tu disais, Féophanie, un peu pour répondre à Ellie. Je pense aussi que le jeu vidéo, par rapport à toute autre forme de médium, a un problème, c'est le problème d'incarnation. C'est-à-dire que le cinéma, les séries, romans, bandes dessinées, même le sport, vous avez des têtes de pont, vous avez des figures particulières qui peuvent prendre la parole dans les médias et qui peuvent prendre parti sur des éléments particuliers, sur les crises climatiques, sur la défense des animaux, tout ça. Dans le jeu vidéo, en fait, c'est un pur objet de consommation, il n'y a pas d'incarnation derrière. La plupart des joueurs et des joueuses ne savent même pas qui est le développeur, la développeuse derrière. Il y a des noms qui sortent comme ça, mais qui sont des noms de studio et qui sont complètement désincarnés. Donc je pense aussi qu'il y a ce problème-là dans le jeu vidéo, qui fait que la portée aujourd'hui, notamment auprès des jeunes qui passent par les réseaux sociaux, qui passent par l'ultra-médiatisation, fait que le jeu vidéo a une limite pour porter des messages, qu'ils soient écologiques, même politiques ou autres. En tout cas, je le pense sincèrement.
Et bien, il y a aussi un point à aborder qui est important, c'est la question de la spécificité du jeu vidéo. Et qui est à débattre, et sur le fait qu'on puisse interagir avec un jeu, qui ferait la spécificité du jeu et qui nous rendrait plus actifs par définition, qui est à questionner, et pour le coup, il y en a dans les deux autres. C'est aussi une question.
Pour ma part, c'est une question qui m'a beaucoup traversée en ayant un pied dans la recherche, donc en étant absolument conscient de ce que tu dis. Et puis en même temps en faisant des trucs, hein, parce qu'il faut faire des trucs. Et la façon dont très personnellement j'ai résolu ce conflit-là pour l'instant, c'est de me dire que quitte à ce qu'il y ait des trucs qui soient faits dans le monde, notamment des jeux vidéo, mais aussi on peut essayer de faire ce que tu disais tout à l'heure, le moins mal possible. Pour l'instant, en fait, il y a deux principes en permaculture qui sont assez intéressants à mon sens. C'est good enough for now et safe enough to try. Et je pense que ça permet de se dire, ok, on fait des trucs, on n'est pas sûr que ce soit extraordinaire, mais au moins ça n'a pas l'air trop nocif et ça rejoint ce que tu disais. Et du coup, voilà, ça ne met pas une exceptionnalité du jeu vidéo, ça prend en compte. Et puis, en fait, d'essayer de se libérer aussi de toutes ces pressions, réflexions morales et de se dire, bon, au final, je fais un truc.
C'est juste, j'ai beaucoup aimé le côté où vous avez parlé de nécessité d'avoir une projection, ne serait-ce que pour s'attacher à quelque chose, comme là avec des romans, et du coup, j'ai bien aimé aussi les remarques vis-à-vis du médium en tant que tel, du fait que c'est peut-être pas, nous on est dedans, on joue, on est équipe produite ici, des jeux vidéo, et donc forcément on a une attache particulière à ce médium. Mais néanmoins, ça ressemble, c'est comme le cinéma, c'est comme lire un livre, c'est comme aller au théâtre. Enfin, c'est une industrie culturelle à part entière qui a parfois du divertissement, parfois de l'art. Des fois, regarder un Marvel, c'est peut-être pas forcément la plus grande forme d'art à proprement parler, mais c'est un divertissement. Comme jouer bien sûr dans Call of Duty, ça peut se débattre. C'est pas un point de ligne, mais par contre, on a beaucoup parlé, quasiment exclusivement, de jeux solo. Lorsqu'on aborde ces sujets-là, et en particulier dans ces univers-là, dans la construction, il y a beaucoup cet aspect-là de la narration qui revient. Et je me posais la question, les jeux qui sont les plus joués, les plus regardés aujourd'hui, en particulier avec la génération du où ça va être que des jeux de sport, des compétitions, comment on peut réussir à créer ce narratif-là, à faire en sorte d'ajouter des choses, parce que j'ai honnêtement réfléchi, là en regardant la liste des jeux qui étaient joués en compétition, j'ai jamais vu ces problématiques-là apparaître, que ce soit des problématiques, même de façon très discrète, c'est assez particulier, j'ai pas vraiment cette impression-là, je sais pas si vous avez des exemples de choses qui peuvent être là, ou même de possibilités de choses qu'on pourra intégrer, comment ça pourrait créer ce narratif-là.
Moi j'ai une idée qui me vient d'un coup là, sur Rocket League, qui est un des jeux les plus gros. C'est bête, mais de se poser la question de elles fonctionnent à quoi les voitures dans Rocket League? Donc est-ce que c'est des voitures électriques? Est-ce que c'est des voitures qui fonctionnent? Enfin, ça. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'idée de si on veut prendre le jeu vidéo au sérieux, on peut se poser des questions aussi bêtes que celle-là aussi. Et moi je serais trop contente de voir une conf sur ce sujet en fait. Comment est-ce qu'on fait fonctionner ça? Ça rejoint aussi d'autres questions qu'on avait en préparant cette table ronde sur tous les imaginaires qu'on nous propose. On ne peut pas se projeter dedans parce qu'il n'y a aucune prise réaliste ou vraisemblable, je ne sais pas quel des deux. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas vivre sur Mars en 0G, quoi. Donc comment est-ce qu'on se projette là-dedans en fait? Et donc sur des questions très techniques, ça pourrait être un moyen de relier le réel et du vidéo dans des applications concrètes.
Sur les jeux multijoueurs, mais c'est toujours pas des jeux de compétition. Je pensais au MMORPG, la narration émergente des joueurs et joueuses. Je pense qu'il doit y avoir puisque des gens sont déjà conscients et inconscientes, du coup, il doit y avoir des histoires faites. Voilà. Mais j'ai pas d'exemple.
Moi, je me demandais, je sais pas si ça répond à la question, mais. Je disais, c'est avec les jeux de sport auxquels on pense, c'est toujours, soit des jeux de tir ou des jeux où on se tape dessus, quoi, la plupart du temps. Et justement, je me disais, en ce moment, il y a des jeux qui sont multis, qui sortent un peu de ceux-là, il n'y a pas encore d'e-sport dessus, mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, qui sont des jeux comme par exemple Geek, ou penser au Slab Joueur Repo, des choses comme ça, où on peut envisager des compétitions entre différentes équipes. Le problème, c'est que les jeux d'e-sport, c'est des jeux de compétition. Donc, je ne sais pas si on arrivera à avoir l'e-sport sur autre chose de compétition, parce que c'est le principe même du sport, j'ai l'impression. Mais avoir des jeux où il y a un concept de ne pas se taper dessus, suffit d'arriver à un objectif ou de créer la meilleure chose ensemble, en fait, ça pourrait être une piste intéressante, je pense, pour essayer de garder un peu ce côté, un peu sport, ce côté amusant, cette effervescence, voilà, de voir des gens réussir à trucs à haut niveau et sympa, et en même temps, avoir des choses différentes, de juste se tirer dessus ou se taper dessus, et par exemple, d'essayer soit de créer, soit vraiment de se coordonner pour aller faire des choses plus intéressantes. Je me disais, c'est des pistes.
Oui, tout à fait, on a des jeux plateaux qui sont coopératifs, pourquoi on n'aurait pas la même chose sur des jeux vidéo avec si la coopération n'est pas là, la solidarité n'est pas là, personne ne gagne. Ça pourrait être intéressant. Et puis il y a aussi le côté, on est seul ensemble en fait sur certains jeux qui sont connectés. Et ça peut être intéressant aussi parce qu'on est quand même dans des sociétés de plus en plus individualistes. Alors, certes, les personnes sont toutes seules derrière l'écran, mais si elles sont connectées, elles discutent. Ce que je trouve assez dingue aussi, il faut se remettre 30 ans en arrière, des gamins de 15 ans qui parlent anglais à des gens à l'autre bout du monde, il y a quand même un truc assez dingue quoi, et qui peut être super intéressant et qui contribue aussi à lutter contre les idées d'extrême droite, qui contribue aussi à discuter avec des gens qui n'ont pas forcément la même réalité de vie que nous, mais qui quand même développent. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi à promouvoir et à protéger, et puis peut-être pour compléter.
Je suis désolée.
Je pense qu'il faut aussi voir la dimension politique en fait, du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en projetant des récits des imaginaires, forcément, on fait de la politique d'une certaine manière. Parce qu'on va projeter certains stéréotypes, certains modes de société. Et c'est comment on peut aussi proposer peut-être des imaginaires qui sont moins masculinistes, qui reposent moins sur le fait de défausser un ennemi. Qui sont peut-être aussi des imaginaires qui mettent en avant des gens qu'on voit moins, alors que ces personnes-là existent dans la société. Donc voilà, c'est vraiment des sujets de fond, et peut-être que c'est aussi amener ces questionnements-là dans les écoles, en fait, de formation aussi au métier du jeu vidéo, et peut-être aussi montrer qu'il y a une clientèle et un public pour ça, et qu'il y a même peut-être une attente.
Et moi, ça n'est pas sur le thème de l'écologie, mais genre, enfin, juste l'écologie. mais genre bah, simplement la justification de l'impérialisme dans des jeux multi, enfin avec des tuiles terroristes, enfin c'est clair quand même que genre il y a des trucs super, enfin des gros enjeux de narratif autour de ça, enfin hein, je suis sûr que il joue enfin là à côté, ça à côté il joue à fond un jeu comme ça, enfin genre et pour moi ça va au-delà de justement juste avoir un truc compétitif ou coopératif. En soi, c'est super le jeu compétitif en fait, enfin, genre, ça me dit bien, tu vois. Je pense qu'il y a grave un truc de penser, de toute façon, repenser le sport et tout, et la compétition, c'est grave un truc à faire, tu vois. Et genre, ne serait-ce que dans les représentations, dans les narratifs qui sont présentés dans les jeux multi, on est à des niveaux gravissimes, de toute façon, raciste colonialiste de fou, quoi. Donc, et ne serait-ce que sur l'écologie, les trucs de d'exploitation de ressources, soudainement on a des trucs de MOBA ou de RTS où on sort des usines de terre comme ça, enfin il y a plein de trucs comme ça qui sont questionnés, donc le narratif finalement il ne touche pas que les jeux solo.
Plutôt que de te faire une réponse de Béotien en 30 secondes sur des sujets qui mériteraient des heures et des heures, je conseille à tout le monde d'aller regarder les vidéos de H, tout simplement, sur les questions d'impérialisme et de colonisation. Pour donner un petit peu en conséquence sur ces dimensions-là. Et puis nous, on va continuer d'en discuter. Mais on va entamer la table ronde ici pour maintenant. Donc merci à tous les trois d'avoir accepté de participer. Et puis c'est la fin de la vidéo. Donc merci à tous d'être venus et de nous avoir.